RCF.
Itinéraire.
RCF.
Itinéraire, le dictionnaire donne pour définition route à suivre dans un voyage. Voyage, route, chemin, parcours d'une vie, d'un métier, d'une personne. Aujourd'hui, je rencontre un militaire, un officier général, bien connu dans notre département du Cher. Il est le général commandant les écoles militaires de Bourges et délégué militaire du Cher. Bonjour, général Bernard Bonnet.
Bonjour, monsieur Dupéra.
Avant de débuter cette émission, je tiens tout d'abord à vous remercier vivement d'avoir accepté de prendre du temps dans un agenda où la logistique de la minute est comptée. Mon général, comment devient-on militaire? Plus exactement, comment germe est née cette vocation, cette volonté de consacrer sa vie au service de son pays? Vous, l'homme originaire de ce beau département du Tarn-et-Garonne, plus précisément de Montauban, où la belle brique rose illumine quelques monuments. Cette vocation, mon général, une famille de militaires, un maître d'école hussard de la République ou la proximité de la mère patrie des troupes aéroportées?
En fait, ni l'une ni l'autre. C'est tout simplement un hasard d'une rencontre avec un officier de réserve dans les années 70 à l'issue de la messe. J'étais à l'époque, et je suis toujours, le fils d'un paysan, famille nombreuse. J'aimais la terre, mais je savais que c'était pas ma vocation de continuer le travail de mon père. Et puis cet officier de réserve m'a pris à la sortie de la messe. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as déjà envisagé ?» Je lui dis tout simplement « Je ne sais pas ce que je veux faire. Tout ce que je sais, c'est que je veux être au contact des hommes et des femmes et faire un métier où je peux m'épanouir de cette manière-là. » Et à partir de là, cet officier de réserve m'a engagé à connaître un petit peu mieux ce qu'était l'armée à travers, comment dirais-je, les lycées militaires. J'ai passé le concours. J'ai eu la chance d'aller à Aix-en-Provence, au lycée militaire d'Aix-en-Provence.
Très bien.
Et la vocation, elle s'est construite à partir de là. Cette vocation s'est ensuite construite lorsque j'ai pu rentrer à Saint-Cyr. Et depuis donc, bien sûr, je suis comme officier. Je vis comme officier.
Alors justement, vous intégrez l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous choisissez l'arme du train. Votre première affectation, c'est Toulouse, patrie des troupes aéroportées, proche aussi de vos racines familiales. Très rapidement, vous êtes dans l'action. Vous êtes projeté en République de Centrafrique, au Liban, au sein de la FINUL. Vous avez, mon général, l'enthousiasme du lieutenant. Enfin, vous allez mettre en pratique le fruit de votre formation. Pouvez-vous nous donner un souvenir ou un épisode précis de votre commandement comme lieutenant?
Question très difficile, tellement chaque heure, chaque seconde d'un officier, tout particulièrement lorsqu'il est lieutenant, est riche. Mais je pense que, en faisant la part des choses, le souvenir qui me marque le plus aujourd'hui, eh bien, ma première expérience du feu au Liban, c'était le 15 août 1986. Jeune lieutenant, j'arrive dans une base logistique, dans la base de Tyr. Tyr est, comment dirais-je, au sud de la capitale du Liban, qui est Beyrouth. J'arrive le matin, je ne connais pas mes hommes ni mes femmes, puisque je prends le commandement. 15 hommes et femmes, à la fois des Français, mais surtout des Norvégiens, des Suédois, des Finlandais, 3 Fidjiens et 4 Ghanéens. Donc en fait, un peu la tour de Babel. Et le soir, en pleine nuit, tout le quartier français, donc au sud du Liban, est embrasé, pour des raisons diverses. Et je me retrouve seul, complètement enclavé dans une ville, enfermé, sans aucun espoir de soutien ou de renfort. Et là, tous les yeux se braquent sur moi. Je suis le lieutenant, je suis l'officier en charge. Mon lieutenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, pendant une semaine, nous avons vécu à 15, dans 10 mètres carrés, sous un déluge de feu, d'artillerie. Et puis, moi, ayant bien sûr pleinement conscience de la responsabilité de vie et de mort de mes hommes. Donc, expérience très enrichissante, très valorisante, où en fait, l'homme est au cœur de l'action. On ne pense qu'à l'homme, on ne pense qu'à sauver ses hommes. Et puis finalement, vous voyez, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler, comme quoi des fois, les choses se passent bien. Voilà le souvenir, je pense, qui m'a le plus marqué lorsque j'étais jeune lieutenant.
Qu'est-ce qu'on sent quand on est jeune lieutenant comme ça?
En fait, j'allais dire, on n'a pas le temps de penser à soi.
Ouais, c'est ça.
Ce que l'on pense surtout, c'est ses hommes. Comment je peux faire en sorte que mes hommes s'en sortent? Et après, si vous voulez, tout militaire, quel qu'il soit, quelle que soit la nation à laquelle il appartienne, fait confiance à son chef. En l'occurrence, un chef qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne connaissait que depuis 5 heures. L'entraînement que vous avez eu à, et l'instruction, bien sûr, avant que vous avez reçu à Saint-Cyr, ensuite dans le régiment, tout cela vous donne la force, le supplément d'âme pour pouvoir mener à bien votre mission, penser à vos hommes et surtout continuer à assurer la mission. Puisque nous savons tous, lorsque nous entrons dans l'armée, c'est une, comment dirais-je, nous décidons de remplir la mission, quoi qu'il en coûte, et ce, peut-être, des fois, jusqu'au sacrifice suprême.
Merci, mon général. Merci, mon lieutenant de l'époque. Je franchis un grade, comme capitaine. Vous êtes affecté comme chef de section aux écoles militaires de Saint-Cyr. Si je puis me permettre, vos supérieurs avaient déjà perçu en vous quelques qualités pédagogiques et humaines fortes. Quel est l'effet ressenti de revenir dans cette prestigieuse école où, reconnaissez-le, vous avez été et où chaque jour n'a pas toujours été facile, aussi bien l'entraînement physique et intellectuel qui est dense à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Quand vous avez reçu votre affectation, mon capitaine, qu'est-ce que vous avez dit ?
La réponse est simple. Tout à l'heure, vous avez évoqué mes racines paysannes.
Oui.
Et moi, j'ai toujours eu un papa et une maman qui m'ont enseigné une simple chose de la vie, le bon sens. Le bon sens et la fierté de faire un travail dont on est heureux et digne. Et donc, ma désignation comme cadre instructeur à Saint-Cyr, pour moi, c'était honneur et fierté.
Ah oui.
Voilà. Quoi de plus beau que de former des officiers, de futurs cadres de la nation, et surtout de leur transmettre le modeste savoir que j'avais acquis au cours de mes 4 années de lieutenant. Voilà, c'est tout simplement des sentiments très simples, mais comment dirais-je, qui comblent un homme, honneur et fierté.
Un sentiment de fierté.
Voilà, parce que vous dites, je vais former d'abord de jeunes officiers, ce sont des futurs cadres de la nation, d'une certaine manière des élites de la nation, à qui demain la nation va confier les destinées du pays. Donc ce que je crois, vous sentez forcément derrière ces deux mots, honneur et fierté, il y a cette notion de responsabilité, de former au mieux et le mieux possible ces jeunes cadres. Donc c'est un sentiment aussi énorme de la tâche qui nous attend. On n'a pas le droit de se louper. Et tous les jours que Dieu fait à ce moment-là, vous révisez plutôt 3 fois plutôt qu'une les leçons de tactique et technique que vous allez prodiguer à ces jeunes officiers.
Vous participez à l'opération Daguet pour ensuite rejoindre Lille où vous devenez officier supérieur. Là, pour quelque temps, si je puis me permettre, le terrain a été un peu suspendu pour reprendre le chemin des études. En effet, vous êtes stagiaire à l'Institut Royal Supérieur de Défense de Bruxelles. Vous êtes stagiaire au Collège Interarmée de Défense à Paris.
L'école de guerre.
L'école de guerre, tout à fait. Alors, avant de vous parler de vos études, est-ce que vous pouvez me rappeler dans quel contexte vous êtes parti à Daguet ?
Oh, c'est extraordinaire. C'est un beau retour en arrière. Je quitte Saint-Cyr, où je venais de libérer mes jeunes, qui allaient intégrer ce qu'on appelle le premier bataillon de Saint-Cyr, leur dernière année. J'arrive en régiment, je prends mon unité, mon escadron de livraison par air. Et là, nous sommes donc à ce moment-là, septembre 90. Le président Mitterrand annonce bien, nous sommes en guerre. Nous en rentrons dans une logique de guerre. 3 mois après, je suis projeté à Daguet avec, comment dirais-je, rappelons-nous à l'époque, pour ceux qui étaient nés, c'est ce sentiment, on allait combattre la deuxième armée au monde. C'était en tout cas ce que les médias disaient. On pensait que notre ennemi allait donc avait développé la technique pour pouvoir utiliser du chimique dans les obus d'artillerie à très haute altitude. Et donc, on ne savait pas trop où on allait. Mais vous avez une mission, vous y allez avec vos hommes, vous les rassurez autant que vous pouvez. Et puis, comment dirais-je, vous ne vous posez pas de questions. C'est la mission, c'est le job. On est officier pour ça. Et puis, bien sûr, le souvenir que j'ai au-delà de, comment dirais-je, cette mission, c'est décembre 90. Décembre 90, nous sommes aux fêtes de fin d'année. Ce formidable élan de la nation française vis-à-vis de ces 15 000 soldats déployés à Daguet, où nous avons été pendant au moins 3 semaines, 1 mois, couverts de cadeaux et de lettres par nos marraines de guerre. Moi-même, j'ai eu la chance à cette époque d'avoir 4 marraines de guerre avec qui j'ai correspondu au moins pendant 5 ans après, dont une, non pas de Bourges, mais d'une localité qui est dans la Nièvre. Voilà, donc finalement, un très beau souvenir, même si au départ, comme au départ pour chaque mission sur un tas d'opérations, On y va avec une certaine appréhension, mais le job fait que derrière, chaque officier, l'officier, par définition, se transcende, puisque derrière, il doit donner l'exemple et montrer que nous allons tous, comment dirais-je, pour servir les intérêts de notre pays.
Alors, après cette, quand même, là vous êtes en guerre, vous allez donc en Belgique, à Bruxelles, et vous allez à Paris. Tous les officiers ne participent pas, ne rentrent pas à l'école de guerre. Nous sommes bien d'accord.
Oui.
Pourquoi vous, vous allez à l'école à Bruxelles, et plus logique concernant l'école de guerre à Paris. Mais pourquoi Bruxelles ?
Ben, tout simplement parce que je reviens à ce que je vous disais lors de votre première question. L'envie énorme pour moi d'être au contact des hommes et des femmes. Et au fur et à mesure de mes différentes expériences, vous les avez citées, le Liban, la Centrafrique, et ensuite Daguet, eh bien, l'envie aussi de connaître mieux nos alliés. Et puisque j'ai eu l'occasion, tout particulièrement au Liban, ou bien ensuite à Daguet, de travailler avec eux. Et donc là, j'avais la possibilité, j'ai postulé pour servir à la fois en Grande-Bretagne, mais aussi ou en Belgique. J'ai été retenu pour la Belgique, et donc ça a été pour moi une année extraordinaire, où j'ai appris d'abord à découvrir un pays ami et allié, avec une communauté de vue particulièrement proche de la part des Français, tout en ayant leur propre identité. Et surtout, pour moi, ça a été une leçon d'humilité. La Belgique est un petit pays par la taille. C'est un grand pays par, comment dirais-je, je parle au niveau des militaires, en termes de savoir-faire. Et donc, j'ai énormément appris. Depuis, donc, bien sûr, j'ai gardé une proximité toute proche avec eux. Et dans le cadre de mon métier aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, j'ai noué donc un partenariat très étroit avec l'école logistique de Tournai en Belgique.
Oui.
Et nous avons, comment dirais-je, régulièrement des Belges qui sont dans nos murs ici à Bourges.
Et à l'école de guerre à Paris, qu'apprend-on en général ?
Alors l'école de guerre, c'est vraiment la finalité de l'école de guerre, c'est pour vous apprendre à travailler dans un milieu interarmé et, comment dirais-je, à vous préparer demain en tant que futur décideur militaire à pouvoir monter à la fois des opérations interarmées, mais aussi à pouvoir profiter de cette pause sur un an pour élever votre réflexion sur des problématiques, comment dirais-je, plus géopolitiques ou géostratégiques.
Alors justement, vous avez dit pause, mon général. Et pause, de manière à ce que vous puissiez reprendre votre respiration, je vous ai réservé une petite surprise, là. Vous, l'homme du Sud-Ouest, vous, l'homme de Montauban avec des briques roses, je pensais que Claude Nougaro vous ferait plaisir en écoutant cette superbe chanson « Au Toulouse ».
Il est loin mon pays, il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Et la brique rouge des minimes. Au Mont Paris, au Toulouse, je reprends l'avenue vers l'école, mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu gagnes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Au mon pays, au Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air. Et pourtant, l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé au massif des Gascognes, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient leur ventouse. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions ronflent gros. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Au monde Paris, oh Toulouse, oh
RCF.
Itinéraire, aujourd'hui nous recevons le général Bernard Bonnet, commandant des écoles militaires de Bourges. Après Nougaro qui vous a fait rêver, mon général, j'ai pu me permettre, l'action reprend. Votre action de militaire se poursuit. Vous êtes projeté en Bosnie, vous êtes promu colonel et vous prenez le commandement du 1er régiment de train parachutiste de Toulouse. En effet, je n'ai pas dit, mais je le dis maintenant, le général Bonnet est un parachutiste. Et mon général, à Toulouse, le pays n'est pas loin. Vous devenez père de ce régiment. Est-ce la bonne formule ?
Bonne question. Bonne question, parce qu'en fait, être chef de corps d'un régiment, c'est avant tout être un chef pour commander ses hommes, pour aller jusqu'au combat et remplir la mission donc confiée par votre pays. Mais bien évidemment, le commandement d'homme et de femme ne se décrète pas simplement avec des ordres. C'est avant tout toute une belle alchimie de transmission de savoir qui vont du savoir-faire, du savoir-être et également d'amour de ces hommes et de ces femmes. Et c'est ce en quoi cette notion d'amour des gens avec lesquels un jour vous pouvez aller jusqu'au sacrifice suprême, qui fait que vous vous sentez responsable à la fois de l'instruction technique et tactique de ces gens, mais également de leur éducation. Oui, je pense qu'on peut parler de cette belle image ou cette belle analogie avec le père régiment qui est le chef de corps. Je pense que cette notion de patriarcat me va très bien et en tout cas correspond à mes profondes convictions qu'un officier a avant tout un devoir social vis-à-vis bien sûr de ses hommes, mais également de l'entourage dans lequel il doit travailler. Et les émotions très fortes qui vous assaillent pendant vos deux ans nés de temps de commandement, puisqu'en général,
c'est
un chef de corps commande deux ans, font que ce n'est pas, bien sûr, pas, c'est surtout tout sauf une sinécure, mais c'est une expérience tellement enrichissante. Et en fait, ce que vous donnez pour vos hommes et vos femmes, ces derniers, vous le rendent au centuple. Voilà. Donc oui, au final, je pense que j'ai bien pu me sentir comme le père de ce régiment pendant ces deux ans.
Et c'est combien de personnes, un régiment comme le vôtre, à peu près?
Alors, à l'époque, moi,
À
l'époque, il faisait 1200 personnes. Ah. Aujourd'hui, on va dire que la norme est plus aux alentours entre 900 et 1000. Voilà.
Et 1200 personnes, hein, hommes et femmes.
Voilà.
Et ça représente énormément de monde. Attendez.
Oui.
Femmes, enfants et autres, c'est considérable.
Alors, maintenant, après, si vous, si vous y mettez les familles.
Oui, c'est énorme.
Oui, ça vous fait, comment dirais-je, vous prenez on va dire 50% de célibataires, 50% de mariés. Donc, ce qui veut dire que lorsque le régiment, est au complet, ce qui n'arrive jamais, puisque vous avez toujours des gens qui sont en projection sur des théâtres d'opération, ou d'autres qui sont en stage. Voilà. Si tout le monde était présent, avec les familles compris, vous avez une communauté derrière, pas loin de 5000, 6000 hommes, et femmes, et enfants. Voilà. Oui, donc, au total, c'est une belle famille.
Ouais, c'est une belle famille, je pense.
Tout à fait, c'est une belle famille. Et lorsque, sur des moments de cohésion, que sont les fêtes d'armes, quand vous célébrez votre saint patron pour les parachutistes, c'est Saint-Michel. Mais également, lorsque vous faites ce qu'on appelle, lorsque les cadres et les soldats partent du régiment, vous faites une cérémonie particulière. Lorsqu'ils arrivent également, vous accueillez à la fois les familles. Donc tout ça a du sens, crée ce qu'on appelle l'esprit de corps, de la cohésion, et fait que, on peut se sentir de temps en temps comme le père, à la fois père, chef, responsable de tout ça.
Vous êtes promu général de brigade après un séjour en Afghanistan. Alors, vous arrivez à Bourges pour prendre dans un premier temps le commandement de l'école du train et par la suite, vous êtes commandant des écoles du matériel et du train. Diriger les écoles militaires de Bourges, si je puis me permettre encore, c'est être un super proviseur. À la différence que vous recevez des stagiaires tout au long de l'année, des centaines d'hommes et de femmes, tout grade confondu. C'est bien cela?
Oui, c'est cela. Donc, concrètement, les écoles militaires de Bourges, nous recevons toutes les semaines pratiquement 700, 750 stagiaires venant de toute la France. À ces stagiaires se rajoutent également les stagiaires qui viennent passer leur brevet de militaire de conduite dans 5 centres qui sont hors Bourges, Mourmelon, Sissonne, dans les Quatre-Champagnes, Montlhéry au sud de la région parisienne, Lavalbonne à côté de Lyon et puis Cassel-Sarrazin de nouveau dans le sud-ouest à côté de Montauban. Voilà, au total, je suis la première école avec mon camarade le général Baldi, qui commande l'école du matériel. Nous délivrons pratiquement 20 000 attestations de formation par an, ce qui fait de nous la première école en termes de formation de l'armée de terre.
Une belle réussite, mon général. Et là, deux écoles sur un même site, bravo. Alors, je vais poser une petite question piège, mon général. Et nos musées, où en sommes-nous de la création d'un super musée du matériel et du train à Bourges? Alors là, je l'entends parler depuis très longtemps. Où en sommes-nous, mon général, est-ce que vous avez éventuellement une information ou une piste à nous donner?
Nous n'avons jamais été aussi près du but, monsieur Dupéra. Concrètement, ce projet existe depuis longtemps et il vient de prendre une impulsion nouvelle depuis septembre dernier à travers cette idée de créer un pôle muséal ayant accès directement sur l'avenue de Dun, qui est un axe principal de rentrée dans Bourges. Pôle muséal regroupant à la fois le musée de l'arme du train et des équipages, le musée de l'école du matériel, donc, et du matériel, et également les collections de techniques de l'armement de la Direction Générale d'Armement de Bourges. Oui. L'idée est bien d'ancrer ce pôle muséal dans l'histoire locale, dans l'histoire de Bourges, comme on le sait, Bourges, capitale de l'armement, et également de pouvoir, à travers un parcours commun, à la fois où l'on va voir, en remontant l'histoire, comment les hommes du train des équipages qui transportaient les flux de ravitaillement se faisaient réparer leur charroi par nos camarades de l'arme du matériel. Et tout ça avec, comment dirais-je, à la même époque, des transports de canons, de matériel, de munitions qui avaient été construites directement par nos usines de l'armement à Bourges. Beau projet dont le concept est en cours de réalisation. Il va être présenté et de manière à être validé par les plus hautes instances au niveau donc de la défense d'ici la fin de l'année. Et ensuite, nous passerons, j'allais dire, à la phase un peu plus concrète qui sera eh bien, la réalisation de l'infrastructure de ce pôle muséal. La mairie de Bourges est totalement impliquée dans ce projet, mais également, au fur et à mesure que le projet deviendra de plus en plus concret, nous essaierons également de pouvoir faire participer à ce projet d'autres acteurs très importants à la fois de la région, du département et surtout des industriels de Bourges.
Mon général, merci. Alors, je sais qu'il y a une mission qui vous passionne aussi. Vous êtes délégué militaire du CER et je sais combien vous êtes engagé auprès de la réserve citoyenne, des cadets de la défense, l'épide de Soumois, les journées de la défense, j'en oublie. Votre engagement m'oblige à vous poser cette question. Est-ce une mission, mais aussi une passion de vouloir aider, sortir de la difficulté des jeunes qui sont souvent en situation d'échec au travers de cette institution militaire?
Belle question, M. Dupierre. Je reviens à mes racines paysannes et au bon sens de mes parents. C'est avant tout une ambition. Une ambition de participer à un projet collectif au niveau de la nation qui est de renforcer notre cohésion nationale et développer nos valeurs républicaines et citoyennes. Je vous citais que, en fait, si je suis officier aujourd'hui, c'est tout simplement parce que quelqu'un m'a pris un jour par la main pour me donner, j'allais dire, les clés pour déchiffrer et m'engager sur l'avenir. Eh bien, j'estime que il est du devoir et de la responsabilité de chacun d'entre nous de pouvoir rendre à la nation ce que la nation vous a donné. Donc, parler de mission, de vocation, c'est, oui, vous avez raison, mais c'est tout simplement avoir cette volonté, à mon tour, de transmettre ce que, un jour, j'ai eu la chance d'avoir reçu.
Une question très personnelle, la dernière. Dans cet engagement fort pour notre patrie et un itinéraire de vie qui a donné sens à votre action, Madame la Générale, votre épouse et vos enfants ont eux aussi été importants de ce beau parcours. Est-ce que vous partagez cet avis très personnel, mon général?
Oui, et je pense que tout militaire pourrait vous répondre à travers, de la même manière, avec peut-être avec des mots différents de ce que je vais vous dire dans un instant, mais évidemment, un officier ou tout militaire, quel qu'il soit, sous-officier ou soldat, ne peut vraiment mener sa mission à bien que si derrière, la base arrière est solide. Et en fait, votre vie professionnelle, vous la construisez au travers de votre vie familiale. Et l'un est profondément imbriqué dans l'autre. Donc oui, je n'aurais pas pu aujourd'hui, je le reconnais, accéder à ces fonctions si derrière, je n'avais pas eu le soutien de ma famille. Voilà. Donc oui, la famille est certainement au centre de toutes mes préoccupations et m'aide à trouver la force pour avancer tous les jours.
Merci, mon général, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous souhaite une belle poursuite de cette aventure de vie que vous savez faire partager avec cœur et en toute simplicité à nos auditeurs, auditrices. Encore merci beaucoup, général Bernard Bonnet.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Dupéra. Bonne journée.
Merci.